Dans ce podcast, on va voir pourquoi la majorité des opportunités sont toujours saisies par les mêmes personnes et comment faire partie de ces personnes-là qui vont saisir les opportunités avant tout le monde et qui vont faire partie des personnes qui ont toujours un temps d'avance sur les autres. Pour prendre une analogie, j'ai vu récemment que de plus en plus d'écoles, donc d'écoles de supérieures, d'écoles d'enseignement, enseignent aux élèves la programmation, le code, le développement, et ça commence à être vraiment quelque chose de courant en France d'enseigner aux personnes à coder, à devenir développeur, etc. Et je trouve ça génial parce que le métier de développeur, il y a 5-10 ans, il y en avait extrêmement peu. Aujourd'hui, c'est un métier qui est extrêmement demandé parce qu'il y a plein d'entreprises technologiques qui ont besoin de personnes pour développer leur application, pour développer leur site web, et donc mécaniquement, je trouve que c'est une bonne chose. Mais comme je viens de le dire, il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était extrêmement important d'avoir des développeurs. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes en parlent. Je pense que si tu en parles autour de toi et que tu dis à quelqu'un « Ouais, je vais devenir développeur » ou « Mon fils, ma fille va devenir développeur », on va te dire « Ah ouais, ça a l'air bien, effectivement, ça semble être dans l'air du temps, ça semble être une bonne idée. » Mon avis aujourd'hui, c'est que c'est une très mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que on aura toujours besoin de développeurs, je suis d'accord avec ça. Néanmoins, les technologies qui sont en place aujourd'hui, notamment liées à l'intelligence artificielle, vont réduire grandement le besoin de ce métier-là. Alors en fait, ce métier va plutôt muter. C'est-à-dire qu'on ne va plus être développeur, on va être plutôt gestionnaire de développement et on va travailler en collaboration avec une intelligence artificielle pour développer des produits. Et ça, sur d'autres pans de mon activité, c'est des choses que j'utilise dans mon cas pour développer des projets, des produits liés à mes différentes entreprises. Donc c'est un sujet que je connais plutôt pas mal. Donc au final, est-ce que les développeurs vont ne plus exister ? Absolument pas, il y en aura toujours. Est-ce que c'est un métier qui sera moins en vogue, peut-être moins rémunéré, en tout cas qui sera très différent ? Ça, c'est une certitude. Pour autant, si tu en parles autour de toi, bah, toutes les personnes te diront « Ah ouais, ça a l'air d'être une bonne opportunité, c'est dans l'air du temps d'être développeur, c'est une bonne chose. » Alors qu'en réalité, c'était très bien il y a 5 à 10 ans, et aujourd'hui encore, en 2023-2024, tu as des personnes qui gagnent des sommes très importantes en étant développeur, en vendant des services de développement. Tu as des personnes qui gagnent 10 000, 15 000 euros par mois en étant développeur indépendant, il n'y a pas de problème avec ça. Mon avis par rapport à ça, c'est que dans quelques années, ça changera du tout au tout parce qu'il y aura trop de personnes sur le marché du fait de ces différentes écoles. Et à l'inverse, tu auras une demande qui sera plus faible due à l'intelligence artificielle qui, bien évidemment, va venir réduire les coûts des entreprises. Et forcément, bah, quand tu es un chef d'entreprise, tu vas aller chercher à économiser ce qui te coûte le plus cher. Donc, tu vas pas commencer par automatiser la femme de ménage ou la secrétaire, etc. Bien que voilà, ce sont des métiers très respectables, mais ce sont les métiers qui coûtent le moins cher. Donc, tu vas plutôt aller chercher à automatiser et à te passer des personnes qui te coûtent très cher, donc en l'occurrence des analystes, des développeurs, etc., etc. Tout ça pour dire qu'au final, l'opportunité de développeur, elle était excellente il y a 10 ans. Et d'ailleurs, des personnes comme Xavier Niel ont créé l'école 42 en France, qui est une école de développement pour devenir développeur, il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans, je crois. Donc, c'est une très bonne chose et ils l'ont fait au bon moment. Mais aujourd'hui, si en tant qu'étudiant, en tant que futur entrepreneur, tu te dis bah, je vais devenir développeur, je pense pas que ce soit la meilleure idée. Et au final, là où je veux en venir, c'est que la majorité de la population est toujours en retard quand il s'agit de trouver des bonnes opportunités ou des bonnes innovations. Et si tu attends que des écoles, que des formations se mettent en place pour devenir développeur, bah, c'est qu'en général, c'est trop tard pour le devenir. Et c'est qu'en général, la vague est déjà en train de passer. À l'inverse, les personnes qui sont devenues développeurs il y a 5 ans, il y a 10 ans, bah beaucoup ont suivi des formations comme l'école 42 qui n'était pas vraiment une école officielle puisque c'est une école qui est gratuite, qui est financée par Xavier Niel de mémoire, par son association on va dire. Et du coup c'est une école qui est gratuite, c'est pas une école qui est, on va dire, académique, c'est-à-dire dans la norme de ce qui se fait dans les écoles de commerce, dans les universités, c'est une école qui est très très différente de ce qui se fait ailleurs. Et donc les personnes qui allaient étaient un peu des innovateurs, un peu des gens un peu différents de la norme on va dire, et qui avaient une vision qui était différente puisqu'à l'époque devenir développeur c'était quelque chose qui était totalement incongru, c'était pas logique de faire ce métier-là, qui était un peu bizarre, un peu mal vu, en tout cas qui n'était pas très connu. Aujourd'hui, maintenant que ça l'est, on se rend compte finalement que c'est déjà trop tard, que c'est un métier qui est en train d'être disrupté et qui potentiellement existera beaucoup moins ou alors sous des formes différentes, on n'en est pas sûr. Cet exemple, il est extrêmement parlant de la propension de la majorité de la population à être en retard sur l'innovation et sur les bonnes choses à faire, les bons investissements à faire, les bonnes entreprises à lancer. Et c'est totalement normal. La majorité de la population suit les tendances qui sont suivies par la masse. Et donc forcément, si tu attends que quelque chose devienne généralisé pour que la masse le suive, bah c'est forcément déjà trop tard. Si tu attends pour acheter des crypto-monnaies, comme j'ai dit dans un exemple précédent, dans un épisode du podcast, si tu attends que tout le monde achète des cryptos pour acheter des cryptos, très bien, tu vas acheter au plus haut et tu vas probablement tout perdre. Parce que quand tout le monde a déjà acheté des cryptos, le marché est déjà, entre guillemets, saturé et donc l'étape suivante, c'est la chute de ce marché-là et non pas une croissance. Quand tu achètes des crypto-monnaies, quand on est au tout début de la vague et que personne n'en parle et que c'est encore très bizarre, tu t'exposes à un risque qui est très élevé, certes, parce que c'est quelque chose qui est nouveau. Par contre, ton potentiel de gain, c'est pas de faire 20%, 30%, c'est de faire x10, x15, x20. Ce qui aujourd'hui, bien sûr, est trop tard, en tout cas à mon sens, je te réfère à un autre épisode du podcast. Tout ça pour dire que, au final, la masse n'est jamais un bon indicateur d'investissement, d'entrepreneuriat, etc., etc. Et je peux te citer 10 000 exemples. On m'a souvent parlé, alors moi, ce n'est pas du tout ma génération, mais si tu es plus âgé que moi, peut-être que tu connais cette entreprise qui était Eurotunnel. C'était une action qui était poussée par absolument tous les banquiers à l'époque. Alors, c'était à l'époque de mes parents, donc c'était il y a peut-être 30 ans, quelque chose comme ça, 20 ou 30 ans. Et c'est une action, bah, quand le tunnel sous la Manche a été créé, il y a une action qui a été créée autour de ça et qui a été vendue comme étant l'action qui allait exploser, etc. Tout le monde en parlait, quasiment tout le monde l'a acheté, pour te dire, même ma mère, qui n'a jamais investi en bourse de sa vie, avait acheté les actions, donc sous conseil, bien sûr, de son banquier. Donc, je pense que beaucoup de Français l'ont fait. Et au final, bah, c'est l'action qui a été divisée par 10, qui vaut absolument rien du tout aujourd'hui et qui a absolument perdu toute sa valeur. Et au final, bah, on en revient encore à la même logique. Quand tout le monde parle d'une opportunité, c'est déjà trop tard. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on fait maintenant pour saisir les bonnes opportunités, pour être innovant? Moi, ce que je préfère faire, ma vision par rapport à ça, je te donne un conseil qui est extrêmement concret, c'est de prendre des tendances qui sont déjà en place, qui sont déjà existantes, parce que si tu prends des trucs qui sont nouveaux à chaque fois, bah, là aussi, tu as un risque énorme, parce que si tu te lances dans la crypto en 2006, en 2007, je sais pas, bah ok, tu as un potentiel de gain qui est énorme, mais tu as un potentiel de perte qui l'est tout autant, parce que, bon, pour le coup, ça a marché, mais tu as sûrement plein d'innovations à ce moment-là qui ont été créées, qui n'ont pas fonctionné. Et là, les personnes qui ont mis 1000, 2000, 10 000 euros là-dessus, elles ont tout perdu. Donc ma vision, c'est pas d'investir sur des choses farfelues, pas du tout, c'est d'aller sur des secteurs d'activité qui sont reconnus, l'immobilier par exemple, hein, c'est évidemment mon fer de lance. Donc investir en immobilier, c'est une excellente chose. Investir dans l'immobilier comme tout le monde, c'est la pire des choses à faire. Et ça, c'est bien évidemment l'angle que j'emploie systématiquement. Acheter un appartement pour le louer est la pire des choses à faire parce que c'est ce que tout le monde fait. Et quand tout le monde achète un appartement pour le louer, qu'est-ce qui se passe? Bah, le prix des appartements augmente forcément parce que tout le monde veut en acheter. Le prix des loyers, bah, lui, ne va pas forcément augmenter. Et donc, la rentabilité que tu vas tirer de cet achat va forcément être extrêmement faible parce que tout le monde fait la même chose. Donc, tu crées une concurrence autour de ton produit, de ton service. En l'occurrence, l'immobilier, c'est un bien qui est accessible à tout le monde. Tout le monde peut acheter l'immobilier, tout le monde peut acheter à crédit. Et donc, forcément, quand tout le monde fait la même stratégie, il faut absolument ne pas le faire parce que tu te retrouves au milieu de la masse et personne n'a envie d'être au milieu de la masse pour faire de l'investissement, pour créer des projets, etc. Donc là où je veux en venir, c'est que tu vas prendre un secteur d'activité qui est en place, qui est stable, qui est déjà, on va dire, solide. L'immobilier, c'en est un, mais tu vas faire une stratégie qui est différente de la moyenne. Là où en immobilier, tout le monde va acheter des appartements pour les mettre en location, tu vas pouvoir aller, comme moi, sur des immeubles. Donc au lieu d'acheter un appartement, tu vas acheter un immeuble complet, tu vas acheter 3, 4, 5 appartements d'un coup. Contrairement à ce qu'on pense, acheter un immeuble, ça ne coûte pas forcément des millions d'euros. Moi, j'ai acheté des immeubles à moins de 100 000 euros alors qu'il y avait 6 appartements dedans. L'achat le moins cher que j'ai fait, c'est un immeuble de 6 appartements que j'ai acheté pour 84 500 euros avant frais de notaire et avant travaux, bien sûr. C'est un bien qui m'est revenu autour de 160 000 euros, tout rénové, tout refait, etc., etc. Et c'est un bien qui est extrêmement rentable, qui me rapporte aujourd'hui plus de 2 000 euros par mois. Donc ça, c'est des projets que tu peux réaliser en étant malin et en allant chercher une autre classe d'actifs. Si j'avais acheté, et je l'ai fait aussi, des appartements, d'ailleurs, pour te dire, j'ai déjà acheté un appartement, un studio qui m'a coûté plus cher que tout mon immeuble compris. Est-ce que c'était une meilleure affaire? Absolument pas. C'était une affaire qui était différente, c'est dans un objectif qui était différent. J'ai acheté un appartement qui est un studio que je mets en location aussi, dans une autre optique. Mais bien évidemment, c'est beaucoup moins rentable que d'avoir acheté cet immeuble de 6 appartements pour 84 500 euros. Donc, pour résumer, j'ai pris une industrie qui est florissante, qui est connue, qui est sérieuse, qui est stable, qui est l'immobilier, et j'en ai profité pour faire les choses différemment en achetant un bien, un type de bien que très peu de personnes visent, à savoir les immeubles. Parce que les immeubles sont visés uniquement par des investisseurs qui ont une stratégie avancée, qui connaissent, on va dire, les rouages de l'investissement, et donc, clairement, ce n'est pas la majorité des Français. Donc ça, c'est l'une des méthodologies. La seconde en immobilier, c'est de faire de l'achat-revente. En France, les personnes vont acheter pour louer ou vont acheter pour habiter. Bah, toi, tu peux te positionner en tant que marchand de biens. Tu vas acheter un projet, acheter un appartement, une maison, la mettre en valeur et la revendre à une personne, justement, qui, elle, va acheter soit pour habiter, soit pour mettre en location. Donc, tu as une clientèle qui est énorme parce que, comme tu le sais, en France, toutes les personnes qui ont un petit peu d'argent, qui ont des revenus un peu excédentaires, se disent, bah allez, c'est le moment d'investir dans la pierre. Je pense que tu en connais autour de toi des personnes qui ne sont pas forcément riches, hein, mais qui se disent, bah je vais acheter un deuxième appartement, ça me permettra de le mettre en location, de préparer ma retraite. Et bah, le métier de marchand de biens, c'est un peu ça. C'est tu profites des personnes qui veulent investir, alors tu profites dans le bon sens du terme, je précise quand même, tu vas acheter un bien, le mettre en valeur et le revendre clé en main, tu vas leur proposer un service clé en main, au lieu que ces personnes aient à gérer par exemple l'ameublement de l'appartement, de remettre un coup de peinture, de refaire une salle de bain, t'as plein de gens qui n'ont pas envie de le faire, tu le fais à leur place et tu prends une marge sur la revente. Je te donne un exemple récent, on a fait un podcast et une vidéo YouTube là-dessus avec Marc. C'est une maison que Marc a achetée, qu'il a achetée 195 000 euros. Il a payé là-dessus des frais de notaire réduits, parce que quand on est marchand de biens, on a une réduction sur les frais de notaire. Donc, il a payé 5 000 euros de frais de notaire. Ça lui est revenu à 200 000 euros. Il a mis quelques milliers d'euros de travaux et c'est un bien qu'il a revendu 230 000 euros. Il a gagné 25 000 euros net sur une seule opération immobilière, simplement parce qu'il a acheté une maison, il a fait un peu de peinture, il a refait le sol et c'est tout. Et il l'a revendu à une personne qui voulait un bien clé en main, tout simplement. Donc ça, c'est une méthodologie qui fonctionne aussi. Donc là où je veux en venir dans la logique, et là, je vends bien sûr ma paroisse parce que c'est ce que je recommande. Et à mon sens, quand tu es salarié, entrepreneur, peu importe, que tu as un peu d'argent de côté et que tu veux lancer une entreprise, une petite activité pour remplacer ton salaire, bah, la manière la plus safe de le faire, c'est d'aller dans l'immobilier. Mais il y a plein d'autres méthodologies. Si tu es entrepreneur déjà ou que tu as déjà des entreprises, un bon moyen eh bien, de faire un business qui n'est pas trop risqué, c'est de prendre une industrie qui est déjà florissante, qui fonctionne bien, et de faire la chose simplement différemment de tout le monde. Je te donne un exemple très simple. Tu es boulanger. Au lieu de faire une boulangerie comme bah, ton voisin et les 10 000 autres boulangers de ta région, tu vas faire une boulangerie avec un espace drive, par exemple, où tu peux venir avec ta voiture et récupérer ta baguette à un drive. Bon, c'est une idée qui me vient comme ça, qui est farfelue, on s'en fout, on sait pas si ça fonctionne, peu importe. Mais l'idée est là. Tu prends une chose qui fonctionne, il y a déjà une demande pour la boulangerie, c'est très bien. Mais est-ce que bah, ça peut rendre service à des personnes de ne pas avoir besoin de se garer, de sortir la voiture, d'aller acheter leur pain? Bah, moi, je pense que oui. Donc, potentiellement, ça peut être ton point de différenciation, d'avoir un espace drive, de n'avoir peut-être même pas de boutique, ce qui te fait économiser en termes de vendeurs, etc., mais d'avoir simplement un drive où les personnes peuvent venir acheter leur pâtisserie, acheter leur pain, etc., etc. Donc tu vois, ça peut être une manière de tirer parti eh bien, d'une industrie qui fonctionne, qui est prouvée, qui est sérieuse, qui est stable, et de faire les choses différemment. Et en immobilier, c'est précisément ce que j'ai fait, ce que Marc a fait, ce qu'on enseigne à nos élèves, et c'est pour ça bah, que nos élèves ont des résultats qui sont si importants. Souvent, j'ai des messages de personnes qui me disent « Mais attends, comment c'est possible? Moi, j'ai acheté un appartement, deux appartements, je perds de l'argent, tous les mois, je dois sortir de l'argent de ma poche. » Bah oui, c'est normal, parce que tu as fait les choses comme tout le monde. Tu as acheté le même bien que ton voisin, tu l'as loué au même prix que ton voisin, tu ne l'as pas mis en valeur, tu n'as pas acheté un type de bien qui est différent, tu es allé dans la même ville que ton voisin, bah forcément tu as les mêmes résultats que ton voisin, c'est normal. Quand tu fais précisément la même chose, tu ne peux pas avoir de résultats différents. Par contre, nos élèves, bah, ils font les choses différemment, ils vont acheter peut-être un immeuble, peut-être qu'ils vont acheter un appartement dans une zone différente, ce qu'on appelle un marché inexploité, donc un marché où il y a un potentiel de développement beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Et le potentiel, comment tu le mesures? Tu le mesures avec des données objectives et tu le mesures aussi avec eh bien, la concurrence qu'il y a sur ce marché. Si tu vas acheter un appartement en plein centre de Paris en te disant « Ah bah super, je vais faire une super affaire immobilière », je pense que globalement tu te trompes parce que ton bien, tu vas le payer extrêmement cher, tu vas le louer, certes tu vas le louer cher, mais très 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 loin de rentabiliser le prix d'achat qui est surévalué, et donc du coup tu te retrouves avec un appartement où tu devras chaque mois sortir de l'argent de ta poche pour payer le crédit que tu as contracté pour l'acheter. À l'inverse, ce qu'on enseigne, c'est d'acheter des biens beaucoup moins cher, aller dans des zones différentes, aller sur de l'immeuble de rapport par exemple, et là l'objectif c'est que tes loyers non pas ne suffisent pas à payer la mensualité, mais te payent l'intégralité de ta mensualité, la taxe foncière, les charges, et te laissent même un bénéfice chaque mois. Si je reprends l'exemple de mon immeuble que j'ai payé extrêmement peu cher, d'ailleurs comment j'ai fait? Bah, déjà c'est sur un marché qui est inexploité avec un fort potentiel de valorisation, donc je suis allé sur un marché qui était vraiment, qui est toujours d'ailleurs à fort potentiel. J'ai trouvé un bien qui est off-market, c'est un bien qui n'était pas sur le marché, c'est un agent de mon réseau qui m'a appelé pour me le présenter avant tout le monde, donc j'ai pu le visiter avant tout le monde, j'ai pu le négocier avant tout le monde, donc personne n'a eu vent de ce bien en vente, j'étais le seul à le visiter, donc j'ai pu faire une offre très basse, j'ai pu encore le négocier et l'avoir avant tout le monde, donc c'est aussi un point qui est extrêmement important. Et derrière, je savais que les appartements de cet immeuble avaient un potentiel de location assez élevé en les mettant en valeur, en les rénovant, donc j'ai engagé des travaux bien sûr, j'ai apporté la valeur à ce bien, et au final c'est un bien, une fois tout loué, là tous les biens ne sont pas encore loués, j'ai encore des biens en rénovation dedans, mais en fait au final ça qui est magnifique avec ce type de projet, c'est que même avec des biens qui ne sont pas encore loués dans l'immeuble, je suis déjà rentable. C'est un projet qui me rapporte déjà du bénéfice chaque mois, alors que j'ai encore des appartements qui ne sont pas rénovés parce que entre-temps j'ai dû faire d'autres projets, j'ai acheté d'autres immeubles, etc. J'ai acheté d'autres appartements, j'ai créé des entreprises, donc j'ai pas forcément eu le temps de tout finir. Mais néanmoins, même là-dedans, même dans un immeuble comme ça qui n'est pas rempli à 100%, je génère du bénéfice. Et c'est un bien, une fois entièrement loué, qui génère entre 2200 et 2400 euros par mois de loyer et sur lequel j'ai un crédit d'environ 700 euros par mois. Donc on parle de 700 euros par mois, 2400 euros par mois, entre 2200 et 2400 pour être précis, de revenus, et donc un bénéfice mensuel de plus de 1300 euros une fois qu'on a pris en compte les taxes et les charges. Donc tu vois qu'on est vraiment sur un bien extrêmement rentable. Donc je paye mon crédit avec les loyers et en plus je dégage un bénéfice parce que je suis allé chercher un bien qui est différent, une stratégie qui est différente de la masse, et parce que j'ai optimisé en allant l'acheter en off-market sur un marché inexploité, en valorisant les appartements et en les louant à un prix qui est supérieur à la moyenne du marché parce que j'apporte plus de valeur à mes locataires. Donc tu vois, quand on prend un secteur qui fonctionne, donc on prend pas de risque parce que l'immobilier c'est pas risqué, je veux dire acheter un appartement et mettre en location ce n'est pas risqué, acheter un immeuble et mettre les appartements en location au final c'est pas beaucoup plus risqué. Oui, tu vas acheter plus d'appartements, donc forcément ça peut être un peu différent, il faut bien sûr, il y a des contrôles à faire, il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention, c'est normal. Par contre, c'est pas beaucoup plus risqué que d'acheter un appartement seul. Par contre, c'est beaucoup plus rentable. À l'inverse, aller acheter des crypto-monnaies, bon, c'est extrêmement risqué parce que tu ne sais pas si la crypto-monnaie demain elle sera encore en vie, tu ne sais pas si l'écosystème est fiable, tu as plein de risques liés à tout ça évidemment. Donc pour le coup, ce n'est pas forcément quelque chose d'intelligent. Aller sur un marché qui est déjà en place, aller chercher des stratégies qui sont différentes, ça par contre, à mon sens, c'est ce qui fonctionne vraiment. Et si on reprend et on boucle la boucle avec le début de ce podcast, avec mon exemple sur les développeurs, qui montre très bien que la majorité de la population, et même l'État, même le gouvernement, j'ai même envie de dire surtout, et les écoles, etc., toutes ces personnes-là sont totalement en retard, eh bien si on boucle ça, eh bien, aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, si tu as 18 ans, que tu ne sais pas quoi faire de ta vie, au lieu de te former à devenir développeur, parce qu'il y en aura beaucoup trop au vu du nombre de formations qui arrivent et au vu de la révolution menée par l'intelligence artificielle, tu pourrais te former précisément sur ces méthodologies-là en te disant « je vais devenir développeur avec une maîtrise accrue de l'intelligence artificielle et donc je vais prendre une longueur d'avance sur toutes les personnes qui vont apprendre à programmer un petit peu à l'ancienne, alors que peut-être que ça ne servira plus à rien dans 2 ou 3 ans grâce à l'IA, bah, je vais directement me mettre à l'IA et je vais me dire « je vais devenir un développeur spécialisé IA et comme ça j'aurai une différenciation par rapport aux autres personnes sur le marché, je serai plus compétent, je serai différent et donc je pourrai vendre mes services ou alors obtenir un salaire beaucoup plus élevé que la moyenne. » Et tu vois, c'est une manière de réfléchir en avance de la masse, en prenant eh bien, des stratégies qui sont différentes, en réfléchissant un peu en dehors de la boîte, en dehors de ce qui est donné un peu partout, et c'est que comme ça qu'on obtient des résultats exceptionnels. Si tu te demandes pourquoi personne n'est jamais devenu riche en suivant les conseils de son banquier, bah c'est parce que le banquier n'est lui-même pas riche. Le banquier va te vendre des produits, hein. Le banquier est commissionné sur les produits qu'il te vend. Il n'a pas intérêt à ce que tu gagnes de l'argent, il a intérêt à ce que la banque gagne de l'argent et lui, par ricochet. C'est normal, c'est le jeu, et là-dessus, c'est même pas une critique parce que c'est humain et c'est normal, il n'y a pas de problème avec ça. Chacun son travail et c'est normal d'être rémunéré parce que d'un autre côté, il va profiter des personnes qui n'ont pas forcément les connaissances en investissement. Donc j'ai envie de dire, bah, si ces personnes ne sont pas contentes qu'ils prennent une commission, bah, elles n'ont qu'à se former, apprendre à investir de leur côté et le faire d'elles-mêmes en prenant le risque de le faire elles-mêmes. Donc voilà, tout risque se paye. Et du coup, forcément, bah, quand on suit ces conseils-là, quand on suit des méthodologies que tout le monde suit, que le banquier conseille à 100% de ses clients, ça ne peut pas fonctionner parce qu'encore une fois, si tout le monde fait la même chose, tu n'as pas de différenciation et tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Et les résultats de tout le monde, eh bah, ils sont moyens. Et en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, ce qu'on veut, ce ne sont pas des résultats moyens, c'est des résultats au-dessus de la moyenne. Et c'est que comme ça qu'on ira chercher eh bien, des revenus qui sont différents de la masse, qu'on ira chercher une vie également qui est différente, parce que ce n'est pas en investissant avec ton banquier que tu vas pouvoir eh bien, quitter ton travail, vivre de ça. Ce n'est pas en entreprenant comme tout le monde que tu vas réussir à générer des sommes importantes, que tu vas pouvoir en vivre, que tu vas pouvoir quitter rapidement ton travail. C'est la même chose, hein. Quand on suit les méthodologies d'entrepreneuriat basiques, entre guillemets, ben, on obtient des résultats qui le sont tout autant, qui sont basiques. Quand on est innovant, quand on réfléchit, quand on essaie de trouver des stratégies différentes, on peut aller chercher des résultats qui sont encore une fois asymétriques par rapport à la moyenne. Voilà, c'est un podcast qui me tenait vraiment à cœur, faire différemment, réfléchir en dehors de la boîte, et surtout pourquoi eh bien, la majorité des personnes sont en retard. C'est pas de leur faute, faut pas les blâmer, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'en avoir conscience, et c'est de comprendre que si quelque chose devient trop populaire, c'est probablement qu'il y a un problème, et c'est probablement que tu peux l'exploiter différemment en retournant le problème et en réfléchissant eh bien, à des innovations, à des choses que tu peux apporter eh bien, à ce modèle-là. C'est ce que j'ai fait en immobilier, c'est ce qui m'a permis d'acheter 35 biens aujourd'hui, d'avoir une ville à Bali, de pouvoir voyager à travers le monde. Là, je te fais ce podcast depuis la Malaisie. Je suis sur l'île de Langkawi, une île paradisiaque. Là, j'ai une vue actuellement sur toute la baie de Langkawi qui est bleu turquoise. C'est juste magnifique. En même temps que je t'enregistre ce podcast, c'est plutôt sympa comme vue. Et bah, ces résultats-là, ils ne sont pas obtenus par chance, par hasard ou par autre moyen. Ils s'est produit parce que j'ai fait les choses différemment et parce que j'ai réfléchi à des moyens de prendre un marché qui fonctionnait déjà et d'améliorer, d'apporter ma patte, d'apporter une différenciation. Et c'est que comme ça que j'ai obtenu des résultats qui sont totalement en dehors des normes et de la moyenne. Voilà. Si tu veux faire pareil, si toi aussi tu veux apprendre à utiliser eh bien, des secteurs qui sont porteurs, des secteurs qui sont stables, qui sont sécurisés comme l'immobilier, pardon, pour remplacer ton salaire, vivre de cette activité-là et pouvoir, eh bien, dans les prochaines années, en vivre à 100%, changer de vie, quitter ton travail, peu importe ce que tu veux faire, eh bien, tu as une méthodologie qui est juste en dessous de ce podcast, c'est le premier lien en description, et dedans, tu trouveras une vidéo qui te présente pas à pas toute la stratégie. On va reprendre ce qu'on a vu ici, notamment le off-market, notamment la notion de marché inexploité. Tu verras eh bien, comment j'ai réussi à générer eh bien, jusqu'à un salaire à chacun de mes projets immobiliers, donc un salaire mensuel de bénéfices. Et dans le cas de l'achat-revente, un salaire annuel de bénéfices sur un seul achat-revente. Tu verras vraiment de A à Z toute la méthodologie. Tout est expliqué, donc je t'invite vraiment à aller voir ça. Et on se retrouve du coup directement dans cette vidéo-là pour que tu puisses apprendre la méthode de A à Z. À très bientôt.